Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Crise diplomatique entre la France et l'Italie. Paris rappelle son ambassadeur, dénonçant des ingérences inacceptables de la part de Rome. Nous ferons le point sur la situation avec Mathilde Imberti et Bertrand Galichet. Pour éviter un Brexit sans accord, l'Union européenne accepte de nouvelles discussions avec Theresa May. Des discussions, mais pas de renégociation de l'accord. Emmanuel Macron veut inciter les jeunes à participer au grand débat. Cet après-midi à Étang-sur-Arroux, en Bourgogne, il rencontre un millier de jeunes pour parler études, emploi et citoyenneté. Laurence Perron est sur place. Jugé pour la tuerie du musée juif de Bruxelles, Medine et Mouchébien, Abou Omar, geôlier et tortionnaire en Syrie, les journalistes Nicolas Hénin et Didier François, retenus en otage en 2013, n'ont aucun doute à ce sujet et l'ont dit à Antoine Marette. Paris et Rome n'arrivent plus à se parler après des mois d'escalade verbale. Paris vient de rappeler son ambassadeur en Italie, une initiative sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui l'a déclenché, Mathilde Imberti, c'est la rencontre en France du vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, avec des gilets jaunes.
Oui, cette visite surprise en France un mardi de Luigi Di Maio qui a rencontré plusieurs gilets jaunes en effet et qui a tweeté, photo à l'appui, le vent du changement a franchi les Alpes. C'était un soutien clair au mouvement des gilets jaunes, une ingérence dans les affaires françaises, estime le Quai d'Orsay. Il est vrai que les relations France-Italie se détériorent depuis des mois maintenant. Le soutien aux gilets jaunes n'est qu'un épisode d'une longue série. On peut citer les déclarations des 5 étoiles contre la politique dite néocoloniale de la France le mois dernier, les pics autour des migrants, de la frontière à Vintimille, de la Libye. Depuis le printemps dernier, en fait, on vit au rythme des petites phrases assassines contre Emmanuel Macron en particulier, la cible de Matteo Salvini, le leader de la Ligue, avec évidemment en toile de fond la perspective des élections européennes.
Et alors, est-ce que les premières réactions italiennes vont dans le sens de la réconciliation, Mathilde ?
Alors la réconciliation, il faudra du temps, certainement, peut-être une reprise de dialogue lentement. Luigi Di Maio et Matteo Salvini font savoir ce soir qu'ils sont disposés à s'entretenir avec les Français. Matteo Salvini affirme que les polémiques n'intéressent pas son gouvernement, mais il reste très combattant. Je vous propose d'écouter sa réaction.
Aujourd'hui, j'ai des tout petits problèmes avec la France. Ils ont renvoyé leur ambassadeur à Paris parce qu'ils se sont vexés. Moi, j'ai répondu, je ne veux me disputer avec personne. Les polémiques ne m'intéressent pas, je veux résoudre les problèmes. Néanmoins, ces deux dernières années, à la frontière entre la France et l'Italie, ces messieurs si généreux et accueillants nous ont renvoyé 60 000 migrants. Et depuis des décennies, ils accueillent 15 terroristes qui devraient être en prison en Italie. Qu'ils nous rendent ces délinquants et nous recommençons à discuter. J'ai raison.
Voilà, Matteo Salvini qui demande l'acquiescement à la foule. Oui, répond la foule, tu as raison. Retransmission Facebook d'un meeting électoral qui s'est tenu cet après-midi dans la région des Abruzzes.
Mathilde Imberti, correspondante de France Culture en Italie, en direct de Rome. La brouille n'est effectivement pas nouvelle entre le gouvernement populiste italien et l'exécutif français. On revient avec vous, Bertrand Galichet, sur les points de tension entre Paris et Rome. Tension qui se renforce à mesure que les élections européennes se rapprochent.
Oui, le scrutin du 26 mai prochain est bien sûr au cœur de la brouille franco-italienne. Emmanuel Macron entend incarner le camp pro-européen face au nationalisme qu'il dénonce depuis des mois. Et l'Italie a de quoi se sentir visée. Depuis l'arrivée au pouvoir à Rome de l'étrange coalition réunissant la Ligue et le mouvement 5 étoiles, les relations entre les deux pays se sont tendues. Fin janvier, Matteo Salvini invitait même les Français à voter contre le parti présidentiel afin de changer les équilibres en Europe. Le principal sujet de discorde étant la question migratoire. En avril dernier, l'entrée de douaniers français dans un local alloué à une ONG d'aide aux migrants dans une petite ville frontalière italienne avait mis le feu aux poudres. Puis la polémique sur l'accueil des bateaux de réfugiés en Europe s'était envenimée. Emmanuel Macron dénonçant la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien. Longtemps, l'Élysée a fait mine d'ignorer les attaques venues de Rome. Mais le 21 janvier dernier, l'ambassadrice d'Italie à Paris a été convoquée au Quai d'Orsay. Un avertissement après des propos du vice-président président du Conseil italien, Luigi Di Maio, accusant la France d'appauvrir l'Afrique et d'aggraver la crise migratoire. La multiplication des critiques a fini par lasser. Il y a une semaine, le président Macron s'était laissé aller à un commentaire peu amène lors de son déplacement en Égypte, en estimant que le peuple italien mérite des gouvernants à la hauteur de son histoire. Ces différents épisodes risquent en effet de laisser des traces, surtout à l'approche des Européennes.
Le ton est plus cordial entre le Royaume-Uni et ses partenaires européens, mais le casse-tête du Brexit n'est toujours pas résolu. Theresa May s'est une nouvelle fois déplacée à Bruxelles aujourd'hui pour tenter d'obtenir une modification de l'accord, dont les 27 ont dit et redit qu'il n'était plus négociable. Elle a obtenu une poursuite des discussions, Angélique Boin.
Oui, les échanges ont été musclés, dit-on ici, mais constructifs. Le dialogue de sourds semble donc rompu et rendez-vous est pris pour de nouvelles discussions. Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit, va rencontrer dès lundi prochain à Strasbourg son homologue britannique, Stephen Barclay. Quant au président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui avait accueilli assez fraîchement, je dois dire, la première ministre britannique ce matin, il la reverra avant la fin du mois. Theresa May, elle, dit avoir observé un désir de coopérer de la part de ses interlocuteurs pour éviter que son pays ne sorte de l'Union sans accord. Cela ne sera pas facile, reconnaît-elle, mais je vais mettre en œuvre le Brexit dans les temps et nous allons trouver une issue. Voilà pour les déclarations. Politiquement, la Première ministre rentre à Londres avec l'assurance de relancer des discussions très vite avec les représentants des 27 États membres. Mais l'on parle bien de discussion, en aucun cas de renégociation sur l'accord de retrait, ce qu'elle était pourtant venue chercher. Qu'a-t-elle obtenu? Finalement et officiellement, rien. Les Européens ont toujours dit qu'ils étaient prêts à échanger sur la relation future avec les Britanniques. Celle qui éviterait ce fameux filet de sécurité qui cristallise l'opposition à l'accord de retrait, celle-là lui a été répétée aujourd'hui. Donald Tusk, qui est le dernier dirigeant à l'avoir reçu, a reconnu lui-même qu'à ce stade, il n'y avait pas, je cite, de percée en vue après les entretiens du jour. Aucune des suggestions réalistes pour sortir de l'impasse que le président du Conseil espérait pourtant entendre de la bouche de la responsable britannique et qu'il appelait hier de ses voeux.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Entre 1979 et 2009, les autorités iraniennes ont arrêté, emprisonné ou exécuté au moins 860 journalistes. C'est l'une des informations rendues publiques par Reporters sans frontières en présence de l'iranienne Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la paix en 2003. Ces révélations sont issues de documents confidentiels que l'ONG a pu se procurer, un fichier détaillant l'intégralité des arrestations, détentions et exécutions infligées par les autorités iraniennes pendant des dizaines d'années dans la région de Téhéran. Christian Cheneau.
C'est une plongée vertigineuse dans trois décennies de justice en Iran. Ce fichier révélé par RSF contient 1 700 000 procédures judiciaires pour Téhéran et sa région. Il couvre la période des débuts de la révolution islamique en 79 jusqu'à 2009, année de la réélection controversée de Mahmoud Ahmadinejad. Il révèle que sur cette période, plus de 60 000 personnes ont été emprisonnées pour des raisons politiques ou religieuses, dont 860 journalistes. L'avocate Shirin Ebadi, prix Nobel, se réjouit de ces révélations car elle lève le voile sur l'appareil judiciaire iranien qui a broyé tant d'Iraniens.
Notre objectif, c'est d'abord de découvrir la vérité et ensuite de mettre à la disposition des Nations Unies et d'autres organisations concernées les informations que nous avons obtenues. Mais notre première analyse montre très bien que le contenu de ce fichier, de ces documents, tout est vrai et crédible.
Et puis, le fichier prend le pouvoir iranien en flagrant délit de mensonge, poursuit Shirin Ebadi.
Il y a un point qui est très important à signaler. C'est que pendant 40 ans, le régime iranien a toujours nié emprisonner des gens pour leurs croyances, par exemple la minorité des Bahaïs. Le pouvoir affirme que les Bahaïs ne sont pas en prison à cause de leur religion, mais à cause de leur propagande ou des activités contre la sécurité nationale.
Autant de chefs d'inculpation fallacieux qui mettent en lumière une répression constante depuis les débuts de la révolution islamique.
Au Brésil, l'ancien président Lula est une nouvelle fois condamné. En prison depuis avril dernier, Lula est jugé cette fois coupable d'avoir profité de la maison de campagne d'un ami dont les travaux ont été réalisés par des entreprises de BTP condamnées pour corruption. Aucun lien direct n'est établi entre l'ancien président et les bénéfices reçus puisqu'il n'est pas propriétaire de cette maison. Mais Lula est tout de même condamné à 12 ans et 11 mois de prison pour corruption, la correspondance d'Anne Vigna.
C'est un nouveau coup dur pour l'ancien président Lula et un acharnement de la justice pour ses avocats. La condamnation de la juge Gabriela Hart reprend les mêmes arguments que son prédécesseur, le juge Sergio Moro, qui a rejoint le gouvernement Bolsonaro comme ministre de la Justice. Lula serait le principal responsable pour le détournement d'argent au sein de Petrobras et en aurait tiré des bénéfices personnels. Selon la sentence de cette nouvelle condamnation, Lula aurait bénéficié d'une réforme réalisée par des entreprises de BTP dans une maison de campagne que son ami Fernando Bittar lui a toujours prêté. Les factures de cette réforme présentées par le propriétaire n'ont pas été retenues par la juge. Cette dernière se base uniquement sur la parole des délateurs qui ont tous signé un accord de délation avec la justice afin d'éviter la prison. La sentence reprend également les mêmes failles que la première sentence de Moro. Lula n'est propriétaire ni de l'appartement au bord de mer pour lequel il purge une peine de 12 ans de prison, ni de cette maison. D'autre part, la justice n'a pas montré le lien entre cette réforme et les bénéfices qu'en aurait tiré les entreprises de BTP. Aucun contrat n'est cité comme une faveur de Lula pour ces entreprises. La juge les relie à l'argent détourné de Petrobras, mais sans en montrer la preuve.
Le grand débat national est jusqu'à présent plutôt attiré des seniors. Emmanuel Macron a donc décidé de s'adresser aux plus jeunes. En Bourgogne aujourd'hui, il a bien sûr rencontré des élus, mais il s'est ensuite rendu dans la petite commune d'Étang-sur-Arroux pour rencontrer, dans le gymnase, un millier de jeunes de 15 à 25 ans, lycéens, étudiants, apprentis ou volontaires du service civique, soit, selon l'Élysée, un échantillon assez large et représentatif des jeunes du Morvan. Vous suivez pour nous cette rencontre, Laurence Perron.
Oui, et le président est au milieu de ces jeunes pour un débat qui se veut sans tabou.
Je veux votre part de vérité, vos indignations. Et faites-moi plaisir, je sais qu'il y a eu un gros travail pour préparer les choses, c'est normal, et je remercie vraiment vos enseignants pour cela. Mais à chaque fois que vous vous êtes posé une question et qu'on vous a expliqué que ça n'était pas une bonne question, posez-la.
Première question un peu scolaire qui amène des réponses tout aussi convenues sur la mobilité, l'apprentissage, puis il s'anime.
Je me lève parce que franchement, j'arrive pas à rester trop longtemps assise, faut que je bouge en fait. Donc je voudrais en fait lancer un point d'appel, alors s'il vous plaît, faites remonter l'info comme quoi ne plus utiliser les autistes comme insulte. Parce que François Fillon, à un moment, il a utilisé l'autisme en disant « on n'est pas des autistes ». Alors s'il vous plaît, hein, on arrête maintenant.
Avant de retrouver ses rails, le pass culture opérationnel bientôt, mais pas pour acheter n'importe quoi, le service national universel, le permis de conduire aidé dans ce territoire rural. L'écologie inquiète, le président rassure, enjoint à se mettre au bio. Sur le nucléaire, là il est très clair, cela reste un métier d'avenir. L'exercice présidentiel se poursuit encore, on retiendra que la phrase la plus utilisée aura été celle-là.
Et donc ce qu'on est en train de développer, on a commencé à améliorer les choses, mais on a encore... Je ne vais pas vous mentir, beaucoup de boulot.
Le président est effectivement manche relevée pour un débat qui, lui, l'est assez peu relevé, trop long, trop poli, trop polissé peut-être.
Laurence Perron à Étang-sur-Arroux, en Bourgogne, avec Olivia Branger à la technique. On l'apprend à l'instant, la chef de la sécurité de Matignon démissionne. Marie-Élodie Poitou avait été entendue mardi dans le cadre de l'enquête sur les enregistrements d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crase, diffusée le 31 janvier par le site Mediapart. Nouvelle audience ce matin dans le procès de Mehdi Nemmouche, accusé d'être l'auteur de la tuerie du musée juif à Bruxelles. Ce matin, les journalistes Nicolas Hénin et Didier François ont témoigné. Pendant près d'un an, en 2013 et 2014, ils ont été retenus en otage par Daesh en Syrie et ils en ont la conviction. Mehdi Nemmouche était l'un de leurs geôliers. Le reportage d'Antoine Marette à Bruxelles.
Didier François et Nicolas Hénin croisent la route d'Abou Omar après leur transfert à Alep, dans un ancien hôpital transformé en lieu de détention et de torture par l'État islamique. Ce Français est l'un de leurs geôliers, l'un des plus brutaux, un homme sadique, haineux, narcissique et antisémite. Et pour les deux journalistes, Abou Omar est bien Mehdi Nemmouche. Didier François, comme son collègue, n'a plus aucun doute.
J'ai passé suffisamment de temps entre ses pattes pour avoir l'absolue certitude de qui il était, et donc de pouvoir le dire à la cour et le dire aux jurés. J'ai été venu pour dire deux choses. Un, que je le reconnaissais, ce qui est le cas. Deuxièmement, que ce garçon avait de toute évidence prémédité ce crime antisémite, parce que tout ce qu'il nous avait dit en amont, pendant la détention, montrait absolument sa détermination.
L'antisémitisme d'Abou Omar vire à l'obsession. Son modèle s'appelle Mohamed Merah. Il raconte aux deux journalistes, pendant leur captivité, son rêve, en ces termes, prendre une petite fille juive de 4 ans par les couettes et la fumer avec un calibre. Environ un an après ces déclarations, un homme entre dans le musée juif de Bruxelles et tue 4 personnes. La justice belge va devoir déterminer si cet homme était Mehdi Nemmouche.
Antoine Marette, à Bruxelles pour France Culture. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pense avoir mis la main sur l'un des principaux propagandistes actifs du groupe État islamique. Ce jeune homme de 21 ans est soupçonné d'avoir rediffusé les documents de propagande que lui envoyait un cadre du groupe en Syrie. Mis en examen dans une procédure ouverte par le parquet antiterroriste de Paris, il a été placé en détention provisoire. Le quotidien L'Humanité a été placé en redressement judiciaire avant une nouvelle audience en mars. Le tribunal de commerce de Bobigny prévoit une période d'observation de 6 mois pour voir comment s'en sort le journal communiste. L'UMA fait face à des difficultés financières récurrentes et s'était déclaré en cessation de paiement le 21 janvier. Mais plutôt qu'au pire, Thomas Lemayeux, représentant SNJ du quotidien, préfère maintenant penser à des solutions.
Il faut que la mobilisation qu'il y a autour de L'Humanité aujourd'hui, on a reçu 700 000 euros de dons et de souscriptions depuis une dizaine de jours. On a 500 abonnés supplémentaires depuis une dizaine de jours. On voit des tas de gens se mobiliser sur donc il faut que cette mobilisation s'élargisse encore aussi avec on essaie de rassembler les salariés à l'intérieur du journal pour réfléchir à améliorer notre offre rédactionnelle, notre offre éditoriale, l'aiguiser, améliorer notre diffusion, trouver des recettes supplémentaires de diffusion, réfléchir au numérique, poser un peu toutes les questions qui se posent et qui vont se poser effectivement dans des temps assez réduits. À ce stade, je pense qu'on a des recettes à trouver, des recettes et des permettre que le journal fonctionne sans faire des économies sur la base salariale. On voudrait d'abord vérifier qu'on fait bien tout ce qui est possible pour trouver de l'argent nécessaire.
Propos recueillis par Audrey Dumain. La ville de Paris organise sa deuxième nuit de la solidarité. Quelques 2000 bénévoles vont une nouvelle fois arpenter les rues de la capitale, les parcs et jardins, les talus du périphérique, mais aussi des halls d'immeubles, des parkings, des stations de métro, sans oublier les 13 hôpitaux parisiens. L'an dernier, la ville avait ainsi recensé 3035 personnes à la rue, ce qui a permis d'identifier plus finement les besoins, explique Dominique Versini, adjointe à la solidarité à la mairie de Paris.
La maire de Paris a proposé de mettre à disposition 1500 places sur des locaux de la ville de Paris, à charge pour l'État d'en ouvrir autant. L'engagement a été tenu. Parmi les 3035 personnes, il y avait 12% de femmes qui voulaient avoir des lieux dédiés, non mixtes, pour pouvoir se sentir plus en sécurité. La ville de Paris donc a ouvert une halte pour les femmes, ouverte le jour et la nuit, dans les locaux même de l'hôtel de ville de Paris. Donc on verra, avec plus de places, combien il y aura vraiment de personnes dormant à la rue ou dans un parking. Et on pourra savoir quels sont les problèmes. Est-ce qu'il y a des nouvelles catégories de personnes? Une fois analysé tout cela, la maire de Paris pourra faire des propositions à l'État pour continuer à améliorer la situation des sans-abri en pilotant mieux nos politiques publiques et en ciblant mieux les dispositifs proposés pour les personnes en situation de rue.
Dominique Versini répondait à Fiona Mogadam. Près d'un habitant de Mayotte sur deux est de nationalité étrangère. Selon les résultats du recensement de 2017, la proportion des étrangers à Mayotte a atteint un ratio inédit sur le territoire national. 48%, c'est une hausse de 8% sur 5 ans. Ce chiffre illustre la forte affluence depuis les îles voisines puisque 95% de ces étrangers résidant à Mayotte sont comoriens. Les précisions de Fra Hati Youssouf Saïd de Mayotte la première.
En 5 ans, la population mahoraise a fortement augmenté, plus de 3,8% par an en moyenne, pour s'établir à 256 500 habitants en 2017. Cette démographie galopante s'explique surtout par la forte natalité, plus de 7 700 bébés en moyenne par an. Djamel Mekawi, chef du service régional de l'INSEE à Mayotte.
Il y a eu beaucoup de naissances. Et les naissances nombreuses à Mayotte sont le principal moteur de la démographie du territoire. En pratique, aujourd'hui, on est à Mayotte à 5 enfants par femme, avec une différence en fonction de la naissance des femmes. 6 pour les femmes natives de Comores et 3,5 pour les femmes natives de Mayotte. Donc une grande différence, mais qui conditionne une forte croissance de la population.
De nombreux étrangers, surtout des Comoriens, plus de 32 500 sont rentrés dans le département, alors que les natifs de Mayotte partent en masse vivre ailleurs. Désormais, on compte plus de 120 000 étrangers à Mayotte, dont 95% des Comoriens, 4% des Malgaches et 1% viennent de l'Afrique. Djamel Mekawi.
Oui.
Un habitant sur deux à Mayotte est de nationalité étrangère. Et c'est particulièrement vrai à Mamoudzou, Koungou et Dembéni, où pour ces trois communes, les taux tournent autour de 60%. Donc c'est des communes à très large majorité de population étrangère. À l'inverse, Bouenim, Samboro, ce sont les communes où il y a le moins d'étrangers à Mayotte, avec 15 et 16%.
La population mahoraise reste encore très jeune, la moitié des habitants a moins de 18 ans. Les conditions de logement sont encore très difficiles. 3 ménages sur 10 n'ont pas l'eau courante et 4 ménages sur 10 vivent encore dans des logements précaires, principalement des cases en tôle.
Demain vendredi, le temps sera gris au nord de la Loire avec un peu de pluie. Au sud, le soleil fera de belles apparitions, de petites gelées le matin en Auvergne comme en Franche-Comté. Ailleurs, des minimales de 1 à 9 degrés. L'après-midi, 8 à 13 degrés sur la moitié nord, 11 à 17 au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.